Ouais, la première chose qu'on peut dire, c'est que ça fait longtemps, vous pouvez remonter longtemps dans le temps, pour retrouver une grève de l'éducation nationale qui ne concerne l'éducation nationale. C'est une grève corporatiste, en fait, qui concerne nos salaires, nos conditions de travail. Souvent, ça a été grève contre la réforme des retraites, grève contre la réforme du baccalauréat, grève contre ceci, etc. Mais ça ne concernait pas au point du chef, c'était pas nous qui... Mais là, on voit bien que nos conditions de travail, les conditions de travail des élèves en dépendent aussi, et puis que ça commence à bien faire, les chutes de salaire depuis 30 ans, 40 ans. Les documents qu'on trouve un peu partout maintenant, les études qui ont été faites sur les chutes de salaire sont considérables, et donc dans le CDE on voit la place des profs français. Donc bon, on jette un pavé dans la mare pour voir si les collègues sont prêts à crier eux aussi, puisque la rentrée prochaine s'annonce encore salée. C'est au CTA demain, le comité technique académique, que les chiffres vont ressortir, 112 emplois de supprimer, 2412 heures supplémentaires pour remplacer les équivalents temps plein, les 2 heures d'atelier en quatrième, 4 heures en troisième pour les lycées professionnels, enfin les collèges. Ça va quoi. Donc c'est pour ça que la fiche dit celle-ci, je la fais. Et on va voir si on peut mobiliser.
Le logo de l'UNSA est rajouté depuis, mais c'était l'exemple juste avant. Voilà, et donc effectivement. Nous, on a depuis décembre, on a travaillé dans les établissements pour essayer de voir les motifs sur lesquels les collègues souhaitaient s'engager. C'est vrai que, comme disait Nicolas, les deux motifs sur lesquels les enseignants ont... C'est vraiment les conditions de travail, actuellement. Le numéro un, c'est les conditions de travail. Et en deux, alors que c'est quand même pas là qu'on est sans arrêt à se plaindre, ça c'est sûr, mais cette revalorisation que le ministère qualifie d'historique. Effectivement, actuellement, nous, on veut contrer cette communication. 69% des enseignants ne sont pas contre par cette revalorisation. Donc qualifier quelque chose d'historique, quand 69% des enseignants ne sont pas concernés, c'est du mensonge. Voilà. Et ensuite, il y a des pans entiers des AESH, ceux qui aident les enfants en situation de handicap. Il y a les AED, les pions. Toutes ces personnes sont exclues des négociations. Donc nous, on trouve effectivement que c'est pas du tout une revalorisation historique. C'est qu'un faible pécule, et comme disait Nicolas, on est loin de pouvoir rattraper les sommes perdues depuis des années. Y a plein de chiffres qui circulent. Moi, je garde souvent celui-là à l'esprit. Un enseignant qui commençait sa carrière en 1982 gagnait à peu près deux fois le SMIC, un enseignant en début de carrière. Actuellement, c'est autour de 1,25 fois le SMIC. Donc on est sur une vision du métier.
Dans les coulisses de la conférence presse organisée par l'intersyndicale éducation des Landes hier après-midi, lundi 18 janvier, en prévision du mouvement de grève attendu dans une semaine, le 26 janvier prochain. Les voix de Nicolas Feymendi, co-secrétaire départemental de la FSU, et celles de Nicolas Guyard, secrétaire départemental pour le syndicat national FO pour les lycées et les collèges et co-secrétaire de la fédération FO pour l'éducation, l'enseignement de la culture et les formations professionnelles. Mais d'autres voix se sont également faites entendre puisqu'il et elle étaient 6 autour de la table.
Je suis Cathy Blain, secrétaire départementale du SNUIPPFSU des Landes, syndicat des personnels du premier degré.
Et Cathy Blain nous expliquait que le premier degré n'a pas été épargné par les mesures douloureuses qui s'abattent sur l'éducation nationale depuis quelques années maintenant.
On est mangé à la même sauce, si ce n'est que dans le second degré, il y a quand même un chef d'établissement qui fait un peu barrière par rapport au personnel enseignant. Dans le premier degré, les directeurs sont enseignants, donc toute la mise en place des divers protocoles, ça a incombé aux équipes sur le temps. Il y a aussi la préparation de classe, il y a aussi être en classe, donc ça a été très très compliqué et ça continue. Ça continue d'être compliqué, oui.
Et la crise sanitaire, vous vous en doutez, n'a rien arrangé.
Alors moi, j'ai été quand même assez agréablement surprise sur le port du masque avec les élèves, parce que finalement, ça se passe relativement bien. Voilà, c'est quelque chose qui supporte assez bien. Après, ce qui est compliqué, c'est les horaires, c'est les groupes qui ne doivent pas être brassés, c'est les temps de cantine, tous ces temps-là sont compliqués. D'autant plus qu'on dépend aussi des collectivités, nous, dans le premier degré, donc des moyens qui sont mis en place par la collectivité pour pouvoir appliquer les protocoles. Et voilà, il y a des endroits où ça a été plus compliqué que d'autres.
Ainsi, Cathy Blain et ses collègues du premier degré seront présents et présentes lors de la manifestation. Elle nous explique pourquoi.
D'abord pour défendre nos conditions de travail qui se dégradent très très vite, de façon exponentielle. Depuis mars dernier, c'est compliqué. Ce qu'on disait tout à l'heure, hein, les protocoles à mettre en place la veille pour le lendemain. Des injonctions ministérielles qui tombent, la formation continue par exemple sur le premier degré, c'est plan français, plan maths, sans savoir ce dont on a besoin dans les écoles, donc c'est des écoles qui sont désignées volontaires sur des horaires, les évaluations CP qui sont les mêmes que l'an dernier alors que les élèves de grande section n'ont pas eu classe pendant longtemps, c'est toutes ces injonctions qui tombent d'en haut. Sans prendre contact avec le terrain, parce qu'on a des demandes, nous, il y a des choses sur lesquelles on a envie et besoin de travailler, mais on n'est pas du tout entendu.
Vous avez l'impression que le gouvernement est un peu déconnecté par rapport à la réalité du terrain, justement ?
Déconnecté, j'ai presque envie de dire que c'est trop gentil. C'est-à-dire, des fois, on est déconnecté sans faire exprès. Là, on a quand même l'impression qu'ils n'ont pas envie de nous entendre parce qu'ils ont des choses à faire passer. Il y a des guides qui sortent pour nous expliquer comment faire avec les élèves, alors qu'on sait bien que la réalité du terrain, c'est pas ça. On a de l'humain en face de nous. Alors, il s'agit pas de faire comme dit le livre. Il y a tout l'élève dans sa globalité à prendre en charge. Et ça, c'est pas du tout dans les lignes du gouvernement. Il y a des guides multicolores qui sortent, un guide orange, un guide bleu, un guide vert. Il faut faire en fonction de ce guide. Et on sait très bien que l'enseignement, c'est pas ça.
Nicolas Guillard, tout à l'heure, en début de conférence de presse, expliquait que ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu une grève juste pour l'éducation nationale.
Alors, on sait toujours ce qu'on disait, c'est-à-dire que c'était soit sur la réforme des retraites, mais on a rarement été aussi maltraités aussi que maintenant. Malgré nos demandes, malgré le fait qu'on monte au créneau en disant « attention, c'est pas de ça qu'on a besoin, nous on est en souffrance », on nous entend pas, donc au bout d'un moment, Et il y a suffisamment de revendications pour pouvoir aussi, pour faire que le plus de personnel possible se sente concerné, parce qu'il y a les personnels enseignants, mais il y a les AESH, ce n'est pas qu'une grève enseignante.
Je suis CPE, donc...
Donc c'est pas vraiment une revalorisation historique, non. C'est plutôt anecdotique, elle concerne qu'une petite partie des personnels et débuts de carrière, sous forme de primes, et en plus, elle constitue un rattrapage de seulement 20% de ce qui a été perdu depuis le gel de la valeur du point d'indice il y a une vingtaine d'années.
Et un enseignant débutant, aujourd'hui, touche la prime d'activité.
C'est révélateur de la précarité dans laquelle sont les enseignants en début de carrière.
Je m'appelle Marlène Bordesoul, je suis co-secrétaire départementale du SNES-FSU, donc dans les Landes.
Marlène Bordesoul revient sur les motifs de la grève nationale de l'éducation nationale du 26 janvier prochain.
Alors, en premier lieu, une des revendications, c'est les conditions de travail qui sont particulièrement dégradées cette année, mais ça va au-delà du contexte sanitaire. Par exemple, on annonce à la rentrée prochaine une augmentation des effectifs de 1,1% dans le second degré notamment, mais en parallèle, le ministère a aussi annoncé des suppressions de l'équivalent de 104 postes. Donc les conséquences, ça va être une dégradation des conditions de travail et d'accueil des élèves, donc ce qui veut dire des classes encore plus surchargées et des heures supplémentaires qui vont être imposées aux enseignants qui vont devoir absorber cette hausse d'effectifs.
Parce qu'aujourd'hui, on parle d'équivalent temps plein, mais pas de création de poste à proprement parler.
Voilà, donc pour arriver à... compenser cette hausse d'effectifs d'élèves dans le second degré, le ministère annonce la création de 35 équivalents temps plein. Donc, ils ne souhaitent pas plus utiliser le terme de poste. Et en fait, c'est pour cacher le type d'heures qui vont être attribuées. C'est-à-dire que ce ne sera pas 35 postes de créer, ça va être l'équivalent de 35 postes, mais en heures supplémentaires. Ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de personnel recruté. Mais sachant que, donc même s'il y a cette création de 35 équivalents temps plein, il y aura une dégradation parce que pour maintenir le taux d'encadrement actuel, au vu de l'augmentation des effectifs, il aurait fallu créer 200 équivalents temps plein. Et là, il n'y en a que 35. Et ça, c'était pour maintenir le taux d'encadrement actuel qui est déjà particulièrement dégradé.
Comme évoqué il y a quelques instants avec Cathy Blin et les élèves du premier degré, élèves et professeurs dans le secondaire ont également été déroutés par la crise sanitaire.
C'est vrai qu'on voit les effets qu'a eu le confinement sur nos élèves, par rapport à la remise au travail notamment, mais leur capacité à se concentrer en classe. Le ministère n'a pas changé les programmes, n'a pas allégé les programmes. Donc on est sur un rythme qui est intenable et notamment on travaille dans des conditions très difficiles, les élèves aussi, vis-à-vis de l'application du protocole sanitaire qui, c'est important de le dire, tous les efforts liés à l'application de ce protocole sanitaire sont entièrement à 100% absorbés par les personnels. Il n'y a eu aucun moyen supplémentaire, et que ce soit pour acheter du matériel, du gel hydroalcoolique, ou que ce soit pour assurer les remplacements des enseignants, mais pas que, des personnels de vie scolaire, des personnels médico-sociaux, et aussi des agents d'entretien. Donc en fait, il y a une surcharge de travail liée à l'application des protocoles sanitaires, sans parler des conditions d'accueil des élèves qui portent un masque 10 heures par jour dans les établissements.
La surcharge de travail liée au protocole sanitaire découle de la complexité de la mise en place des 10 protocoles, nous explique Marlène.
Si on applique le protocole sanitaire dans sa version zélée, c'est fabuleux, sauf qu'en fait, ils ne sont pas du tout applicables au vu de la configuration de nos établissements et du manque de personnel. Et ce qu'on revendique aussi, du coup, c'est des moyens supplémentaires pour pouvoir mettre en place ces protocoles et qu'on ne laisse pas, en fait, autant d'espace à l'interprétation locale du protocole, parce que dans le protocole officiel, tout est au conditionnel et tout est accompagné de tournures si possible. Lorsque cela est possible, il faudrait... Voilà.
Outre le Covid-19, l'année 2020 pour l'éducation nationale aura été marquée par l'annonce d'un Grenelle de l'éducation nationale en octobre dernier.
Un Grenelle de l'éducation, pourquoi pas, il y a beaucoup de travail à faire dans l'éducation. Sauf que les premiers jours de la tenue de ce Grenelle se sont plutôt mal passés, notamment avec les syndicats, qui ont bien vu que la porte était fermée aux revendications syndicales. Et c'est surtout un prétexte pour éclater le statut des enseignants, revoir les obligations de service et travailler, comme le dit Monsieur Blanquer, à la redéfinition du métier d'enseignant en 2021. Donc, ils souhaitent aussi accompagner du coup ces effets de communication, d'une revalorisation qu'on conteste aussi puisqu'elle ne concerne qu'un tiers des enseignants, les débuts de carrière, et qui ne constitue qu'un rattrapage de 20% de ce qui a été perdu ces 20 dernières années à cause du gel de la valeur du point d'indice.
Donc, bof, en fait, ce Grenelle.
Voilà, il n'y a rien à attendre de ce Grenelle. Et c'est pour ça aussi que la grève du 26 janvier est axée autour de ces questions de revalorisation. Parce que cette revalorisation, même si elle concerne qu'une partie des personnels, déjà c'est une revalorisation qui correspond à un budget pour 2021 et il n'y a aucune pérennité annoncée de ce plan de revalorisation pour les années futures. Et nous, on ne veut pas opposer ceux qui vont être revalorisés à ceux qui ne le seront pas, parce que de toute façon, cette revalorisation, même pour les personnels concernés, elle n'est pas acceptable. Donc ce qu'on demande, c'est une revalorisation pour l'ensemble des personnels sur base indiciaire, dans une logique d'équité et de transparence, et qui ne soit pas liée aussi à des missions supplémentaires ou un constat au mérite.
Nos convictions, elles sont là, mais c'est aussi lié à la communication ministérielle. Vouloir autant une école inclusive et derrière ne pas donner les moyens pour que l'école inclusive fonctionne, c'est quand même assez hallucinant. C'est un mépris de ces personnels-là qui est extrêmement fort.
Et des enfants handicapés qu'on inclut systématiquement.
Mais qu'on ne
puisque les IME, les ITEP, toutes les structures spécifiques, on les ferme et on envoie tous les enfants pour l'égalité, disait Najat, dans les classes. Mais il faut pour ça des personnels qui sont formés.
Il y avait des formations sur un handicap, il fallait je ne sais pas combien de semaines pour une formation sur un handicap. Là, en gros, en quelques jours, vous avez tous les handicaps, et c'est pour ça que vous pouvez glisser d'un enfant à un autre. Il y a beaucoup d'AESH qui pètent les plombs, parce qu'ils trouvaient intéressant de suivre un enfant complètement toute la semaine, enfin 20h, 24h. Et maintenant, on va mettre plusieurs AESH sur un enfant, parce que comme ça, quand un AESH est malade, l'enfant n'a pas perdu tout AESH, et puis un AESH sur plusieurs enfants. La flexibilité complète, et tout ça sur une zone, entre un collège qui est souvent une tête de Pial, c'est un collège, et puis toutes les petites écoles qu'il y a aux alentours. Vous regardez Pial Land, vous verrez sur Internet, vous avez la carte de tous les Pial et de tous les responsables, pôle d'inclusion et d'accompagnement localisé.
Et pour rester dans des lettres comme ça, la FSU, FO, la CGT Sud et l'UNSA qui appellent donc à la grève du 26 janvier 2021, grève nationale de l'éducation nationale. Le départ de la manifestation sera à la DSDEN de Mont-de-Marsan à 10h, retour place Bosquet vers 12h et suivant le temps, sandwich tiré du sac et âgé devant la médiathèque avec compte-rendu de l'audience avec le DAZEN, dit le tract. Plus d'informations à retrouver certainement très prochainement en ligne.